Un samedi d'automne, Madame Leclerc, contrainte et forcée par les événements, reçoit pour la première fois sa future belle-fille. Très vite, elle doit admettre que ses manières sont parfaites et qu'elle a de la classe. Elle ne détonne pas dans le décor Louis XVI de son salon bourgeois. Sans être conquise, elle reconnaît que cette jeune femme n'est pas indigne de son fils. L'organisation du mariage occupe une grande part de la conversation. Bérengère confie à Madame Leclerc qu'elle souhaite la présence de tous leurs neveux et nièces dans le cortège d'honneur. D'après ce que lui a dit Vincent, il y a 5 petits-enfants côté Leclerc. « Le compte y est, » dit la mère de Vincent avec un grand sourire. Bérengère poursuit, encouragée par ce sourire. « De mon côté, il y a les 3 enfants de mon frère Alexandre, les 3 de mon frère Étienne et la petite fille de ma sœur, Laurence. Cela fera un beau cortège de 12 enfants. » « Ce sera tout à fait charmant !» renchérit Madame Leclerc. Bérengère se sent réconfortée. Elle n'ignore pas que, depuis le jour où elle a appris son existence, cette femme ne la porte guère dans son cœur. Elle est rassurée de l'avoir manifesté ainsi son approbation. Elle ajoute « C'est tellement important que tout le monde participe à la fête. Un cortège d'honneur mêlant les petits cousins des 2 familles. C'est un joli symbole pour une cérémonie de mariage. » « Vous avez tout à fait raison, » approuve la mère de Vincent. « C'est une très bonne idée qui réjouira les parents autant que les enfants, j'en suis sûre. » À cet instant, Vincent voit passer dans les yeux de sa mère une lueur de joie méchante qu'il connaît bien, mais qu'il ne parvient pas à s'expliquer. Pour que les choses s'éclaircissent, il faut attendre le déjeuner de Noël où Bérengère doit être présentée à toute la famille. Il tombe une pluie froide et drue. On est loin de la douceur ouatée des neiges de Noël. C'est un temps parfait pour ce qui va suivre. Dans le hall, ils sont accueillis à bras ouverts par la mère de Vincent. Elle semble désormais décidée à se montrer bienveillante avec Bérengère. Elle l'appelle « ma chérie » en la complimentant pour l'élégance de son tailleur. « Mes enfants, suivez-moi au salon. Tout le monde vous attend. » Il est fier de présenter sa jolie fiancée à ses frères et sœurs. Comme toujours, Bérengère est parfaite. Elle a l'habitude d'être en représentation. Dans la maison retentissent des cris d'enfants. Depuis le hall, la mère de Vincent les appelle pour qu'ils viennent saluer leur oncle et sa fiancée. On sert le champagne. Les garçons arrivent en courant dans le grand salon et se jettent sur Vincent, qui soutient leurs assauts en riant. Leur grand-mère demande « Dites bonjour à la fiancée de Vincent !» Ils s'exécutent. Bérengère embrasse chacun d'eux. Tandis qu'ils se ruent sur les biscuits apéritifs, elle dit en les regardant avec tendresse « Ils sont vraiment adorables !» Vincent demande à Nicolas, qui a 4 ans et un beau pantalon constellé de miettes de gâteau « Où est ta sœur ?»«
Ben, je sais pas !»«
Dis donc, je vois que tes rendez-vous avec l'orthophoniste ont porté leurs fruits !» Tout le monde rit. Sauf la mère de Nicolas, qui débourse 50 euros par séance et qui, en règle générale, n'a pas le cœur à rire. Nicolas ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Mais il sent bien que c'est à cause de lui, et ça ne lui plaît pas. Aussi est-il particulièrement satisfait de trouver une occasion de détourner l'attention quand sa sœur apparaît dans l'embrasure de la porte.
« La voilà, justement !»
Les rires cessent, et tout le monde se tourne vers Lucie. Vincent ouvre les bras.
« Qui c'est la petite chérie qui vient embrasser son oncle Vincent ?»
Elle court vers lui en criant
« C'est moi !»
Il lui caresse les cheveux, fait sonner les baisers sur ses joues. Elle l'entoure de ses bras et l'étreint violemment. Lucie s'est toujours montrée exceptionnellement affectueuse avec lui. Personne n'a jamais su la raison de ce si grand amour, mais c'est ainsi. Comme chaque fois, il est surpris de la force de cette petite fille de 7 ans. Elle a noué les bras autour de son cou et le serre à lui faire mal en répétant son prénom d'une voix gutturale. Les trisomiques sont souvent comme ça. Ils manifestent leur attachement de façon démonstrative et parfois violente. Il faut un bon moment avant qu'elle accepte de desserrer son étreinte. « Ma petite chérie, dis bonjour à Bérengère !» demande Madame Leclerc. Mais Lucie ne veut pas. Elle reste sur les genoux de Vincent. En regardant Bérengère, elle a dérobé d'un air peu amène. Sa mère essaie de la rappeler à l'ordre. Lucie, tu as entendu ce qu'a dit bonne maman? Va embrasser Bérangère, s'il te plaît. » Mais Lucie dit non, le dit encore, le redit de plus en plus fort. Elle crie maintenant « Non, non, non !» en se blottissant contre Vincent. C'est pour le moins embarrassant. Il tente d'apaiser cette incompréhensible colère. « Allons, Lucie, calme-toi. Ce n'est pas grave. Tu feras un bisou à Bérangère plus tard. N'est-ce pas, Bérangère ?» Il se tourne vers sa fiancée. Elle est blême et semble paralysée. Sa main, fermement serrée autour de sa flûte à champagne, tremble légèrement. Elle parvient tout de même à répondre « Bien sûr, ce n'est pas grave. » Sophie, la mère de Lucie, est très contrariée. « Vraiment, Lucie, je suis déçue. Tu sais que je n'aime pas quand tu te comportes comme ça. » Lucie ne dit plus rien. Elle reste blottie contre Vincent qui la câline pour l'aider à se calmer tout à fait. Madame Leclerc essaie de détendre l'atmosphère. « Allons, allons, ne dramatisons pas. Et puis, ajoute-t-elle sur le ton de la plaisanterie, il faut comprendre Lucie, Bérangère. Vous lui avez volé son Vincent. » Changeant brutalement de sujet, elle déclare à la cantonade « Vous savez quelle charmante idée ont eu nos futurs mariés? Ils veulent avoir tous leurs neveux et nièces dans leur cortège d'honneur. » Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça surprend tout le monde. Mais tout le monde approuve. C'est une très bonne idée. Ce sera vraiment charmant. Sophie regarde Bérangère d'un air reconnaissant. C'est très gentil de votre part. Lucie et Nicolas vont être ravis. Lucie surtout. Bérangère est toujours aussi raide sur son siège. Elle serre si fort sa flûte à champagne que ses doigts sont devenus tout blancs. Vincent est sans doute le seul à mesurer combien elle est troublée et les efforts qu'elle déploie à l'heure actuelle pour se contrôler. Elle se reprend très vite, sourit. Elle répète les phrases qu'il a déjà 100 fois entendues prononcer. Oui, ça leur a semblé une bonne idée. Les enfants sont si mignons. Ça fera un cortège un peu plus important qu'à l'ordinaire, mais après tout, au diable les conventions. Non, elle n'a pas encore choisi la tenue. Mais qu'il ne s'inquiète pas, elle se charge de tout. Il faudra juste lui communiquer les mensurations des enfants 1 mois et demi, 2 mois avant le mariage. Avant, ça n'est pas la peine. Ils grandissent tellement vite à cet âge-là. La mère de Vincent déclare « Bérangère prend l'organisation de son mariage très au sérieux. » Il y a dans sa voix une nuance de moquerie qui n'échappe pas à son fils. Madame Leclerc appelle Lucie. « Viens un peu sur les genoux de bonne maman, ma chérie !» Cette fois-ci, Lucie ne se fait pas prier. Tout en caressant les cheveux de l'enfant, la mère de Vincent poursuit en regardant sa future belle-fille droit dans les yeux. « Vous avez l'air de vous occuper de tout cela avec beaucoup d'énergie. Vous débordez d'idées, Bérangère. Je suis sûre que ce sera une fête tout à fait exceptionnelle. » Bérangère lui adresse un sourire forcé. Elle est pâle. Elle semble bouleversée que Lucie n'ait pas voulu l'embrasser. Mais soudain, Vincent devine, comprend. Ce n'est pas le baiser refusé par Lucie qui bouleverse Bérangère. C'est Lucie elle-même. C'est Lucie, bien sûr. Lucie, dont elle connaissait l'existence sans connaître le handicap. Lucie qui va prendre place dans le cortège d'honneur au milieu des beaux petits-enfants bien portants. Lucie, l'imprévisible. Lucie, l'intraitable, qui pourrait à tout instant perturber la belle ordonnance de la cérémonie. Voilà la catastrophe qui vient de s'abattre sur Bérangère. Voilà ce qui la scandalise et lui transit les doigts. Et puis, en regardant sa mère bercer affectueusement la petite tout en débitant à Bérangère des compliments perfides, Vincent comprend bien d'autres choses, que sa mère déteste sa fiancée. Et qu'en apprenant leur projet d'accueillir tous les enfants dans le cortège d'honneur, elle a tout de suite pensé à Lucie et travaillé à ce que Bérangère n'ait plus aucun moyen de revenir en arrière. Il regarde les deux femmes qui se font face, assises, chacune dans son beau fauteuil recouvert de soie damassée. C'est une vision de cauchemar feutré. Il voudrait qu'on le réveille et qu'on le laisse partir. Durant tout le reste de la journée, Bérangère manifeste un exceptionnel contrôle de soi et la mère de Vincent, une exceptionnelle bonne humeur. Le soir, Au moment des au revoir dans le grand hall, Lucie accepte enfin d'embrasser Bérangère. Deux baisers spontanés et affectueux. Sophie prend Bérangère à part et murmure avec beaucoup d'émotion « Je ne voulais pas vous le dire devant tout le monde, mais je trouve que c'est très généreux de votre part d'avoir accepté Lucie comme enfant d'honneur. Vous savez, ça ne lui est encore jamais arrivé. Vous ne pouvez pas imaginer le cadeau que vous lui faites, que vous me faites par la même occasion. Laissez-moi vous embrasser. » Et Bérangère doit subir cette reconnaissance qu'elle ne mérite pas. Arrive le moment que Vincent a attendu toute la journée avec une certaine appréhension, celui où il se retrouve enfin seul. Bérangère reste silencieuse jusqu'à ce que la voiture ait franchi les grilles de la propriété, puis elle lui dit d'une voix calme et froide « Tu aurais pu me prévenir quand ton frère avait une mongolienne. » Il est frappé par la violence du mot qu'elle a prononcé, comme s'il la dégoûtait. Il répond avec douceur « On ne dit pas mongolienne, on dit trisomique. » Oh, ce n'est pas le moment de jouer sur les mots et de me faire la leçon, Vincent. Comme si le problème était là. Elle s'agite sur son siège, mâchoire serrée. Comment as-tu pu me faire ça, Vincent? Tu le savais que je voulais que tous les petits cousins soient dans le cortège d'honneur. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu quand je t'ai parlé de ça? Pourquoi tu n'as rien dit? Il hausse les épaules d'un air impuissant. Il bafouille. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. C'est ça. Tu n'as pas fait attention. C'est bien ça. Tu te fiches complètement de la préparation de ce mariage. Il nie avec véhémence. Ça l'intéresse beaucoup, au contraire. Bien sûr qu'il se sent concerné. Elle secoue la tête. Arrête de raconter n'importe quoi. La preuve que tu t'en fiches, c'est que tout ça t'est passé au-dessus de la tête. Tu m'as laissé dire à qui voulait l'entendre qu'on allait mettre tous nos neveux dans le cortège d'honneur, et voilà. On se retrouve avec une mongolienne sur les bras. Son sang ne fait qu'un tour. Ne parle pas de Lucie comme ça. Ça ne se passe peut-être pas exactement comme tu aurais aimé, mais ce n'est pas une raison pour parler comme ça de la fille de mon frère. Elle le dévisage un moment, puis se tourne de l'autre côté, appuie son front contre la vitre. Il voit ses belles mains gantées posées sur ses genoux. Rien ne laisserait deviner la tempête et la rage qui se déchaînent en elle. Il ne peut s'empêcher d'être impressionné par la façon dont elle parvient à se dominer. Elle ne desserre pas les dents durant tout le reste du trajet. Vincent continue de rouler, pas trop vite, parce qu'il a peur d'avoir un peu trop bu. On n'entend que le bruit régulier des essuie-glaces, le grincement irritant des balais de caoutchouc contre le pare-brise. Il se dit « Reste calme, c'est un quart d'heure pénible à passer. » Il pianote avec nervosité sur le volant, cherchant le moyen de justifier ce qui semble, aux yeux de sa fiancée, une monstrueuse négligence. Il pense à sa nièce, à la façon dont elle se jette chaque fois dans ses bras, à la jolie robe qu'elle portait, au sourire édenté qu'elle arborait aujourd'hui. Ses deux incisives supérieures sont tombées à quelques jours de distance. Elle n'a pas cessé de répéter que la petite souris lui avait apporté 2 fois 2 euros. Et il a répondu qu'un si joli sourire valait bien 4 euros. Il regarde sa fiancée. Il ne voit pas son visage tourné vers la vitre. Il devine sa rancœur. Comment lui avouer qu'en vérité, ça ne l'a pas effleuré un instant que Lucie pourrait poser un problème? Il est tellement habitué à la voir au milieu des autres à chaque fête de famille qu'il ne la considère pas comme une enfant différente. C'est vrai qu'il a eu le tort de ne pas chercher à se mettre à la place de Bérangère. Il aurait dû anticiper sa réaction. Il n'a même pas pensé à l'avertir qu'il avait une nièce trisomique, c'est dire. Quand Bérangère lui a fait part de son idée pour le cortège d'honneur, il a trouvé ça plutôt sympathique. Il a imaginé les photos avec tous les enfants autour d'eux. Et Lucie y était, évidemment. Mais pour Bérangère, c'est une autre histoire. Le soir, ils n'ont ni l'un ni l'autre assez faim pour dîner. Ils boivent une tisane dans le salon, face à face, lui dans un fauteuil, elle sur le canapé. Ils se regardent en chien de faïence. Après un long silence, Bérangère demande en tournant sa cuillère dans son bol, comme si elle réfléchissait tout haut. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» « Tu ne veux pas en parler à ton frère ?»«
Tu te fous de ma gueule ? »
Elle voudrait quoi? Qu'il aille demander à Jean-Yves et Sophie de bien vouloir accepter de retirer leur petite fille du cortège? Rien de plus simple. Bérangère trouve que Lucie n'est pas assez décorative. Un peu trop trisomique à son goût, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ennuyeux, mais vous connaissez le proverbe, des goûts et des couleurs. Bérangère feuillette nerveusement un magazine. Lucie l'irrite et, d'une certaine façon, la menace. C'est un grain de sable dans les rouages de la machine. En cet instant, une seule question occupe son esprit. Comment s'en débarrasser? Le fait que Lucie soit la nièce unique et préférée de son fiancé n'a pas l'air de constituer un obstacle valable à ses yeux. Sans compter le chagrin qu'éprouveraient la petite fille et ses parents devant ce revirement. Il sent la rage et le dégoût l'envahir. C'est tout simplement impensable. Mais Bérangère n'en pense pas moins. Elle demeure songeuse un long moment, puis revient à la charge. Ce serait si compliqué que ça d'aller trouver ton frère et Sophie? Il se met à crier. Cette fois-ci, ça suffit! Tu dépasses les bornes, Bérangère. Lucie sera demoiselle d'honneur. Peut-être que ça ne t'enchante pas, mais c'est ce qu'on a annoncé à toute la famille. Et moi, ça me fait plaisir. La discussion est close. Elle sait bien qu'elle est allée trop loin. Elle tripote nerveusement le collier en cristal de baccarat qu'il lui a offert pour Noël, en levant vers lui ses beaux yeux malheureux. Pardonne-moi, chérie. Je ne voulais pas te faire de peine. C'est juste que... j'ai été surprise, c'est tout. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, je te demande pardon. Tu as raison, on va prendre Lucie dans le cortège d'honneur, avec les autres enfants. Ce sera très bien comme ça. Elle se lève en soupirant. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Et puis, ajoute-t-elle d'une voix qui soudain défaille, ta mère avait l'air si contente de me voir contrariée. Il repense au visage de sa mère, guettant la réaction de Bérangère, à ce léger pincement de lèvres satisfait quand Lucie n'a pas voulu l'embrasser, à la façon dont elle toisait sa future belle-fille tout en câlinant l'enfant sur ses genoux. Il se lève, enlace sa fiancée. Il sent qu'elle retient ses larmes. « Je te demande pardon, Vincent. J'avais tellement envie que tout soit parfait. Alors cette petite dans notre cortège d'honneur, c'est difficile, tu comprends ?» Je sais bien que ça n'est pas charitable de dire ça. Ça ne te donne pas une bonne image de moi. J'aimerais seulement que tu te mettes à ma place. Ça devait être le plus beau jour de notre vie. Mais ce sera le plus beau jour de notre vie, ma chérie. Ne te fais pas de soucis. Ce n'est rien. Il lui caresse le dos, les cheveux. Elle reste blottie dans ses bras. Elle ne bouge pas. Ne dit rien. Elle a besoin d'être réconfortée. Alors, pour l'apaiser, lâchement, il murmure. Si tu veux, on pourra toujours recadrer quelques photos. Par la suite, ils ne reparlent plus de cette affaire. Ils ont, l'un et l'autre, envie d'oublier cette journée pénible. Bérangère paraît totalement calmée. Mais dans les semaines qui suivent, il surprend des conversations téléphoniques et comprend que la résistance s'organise. On étudie soigneusement où il faudra placer Lucie pour qu'elle apparaisse le moins possible sur les photos. Il se sent vaguement écœuré. Il n'aurait jamais imaginé que ça pourrait aller jusque-là. C'est comme une lame froide passée sur son cœur. Mais il fait mine de n'avoir rien entendu. Il ne veut pas s'en mêler. L'essentiel, c'est que la petite ait sa robe de demoiselle d'honneur. Pour le reste, si Bérangère veut comploter dans les coins avec sa sœur Laurence, il ferme les yeux. Il s'en lave les mains. Fin janvier, les deux familles se rencontrent, lors du dîner de fiançailles organisé par les parents de Bérangère. Madame Leclerc est définitivement rassurée. Chez les Clouet aussi, les fauteuils Louis XVI sont d'époque. En février, Benoît annonce à sa famille que Nathalie est devenue sa petite amie. Vincent est bouleversé à un point qu'il n'aurait pas soupçonné. Il pensait Nathalie sortie de sa vie. Voilà qu'elle y revient. Il n'arrive pas à l'imaginer dans les bras de Benoît. Égoïstement, il se sent contrarié d'avoir été si vite oublié. Il pense « En fait de dépression nerveuse, elle s'envoyait en l'air avec mon propre frère. » Et il lui en veut, comme si elle n'en avait pas eu le droit, comme si elle l'avait trompé, d'une certaine façon. Vincent voudrait savoir comment tout cela a commencé, mais il n'ose interroger son frère. Chaque fois qu'il s'y risque, Benoît élude la question. Il n'a pas envie d'en parler, c'est évident. Personne ne saura rien du début de leur histoire. Est-ce qu'il aimait déjà Nathalie lorsqu'elle était l'amie de Vincent? Est-ce le dépit qui a jeté Nathalie dans les bras de Benoît? Ou bien est-elle véritablement tombée amoureuse de lui? Les gens ne se privent pas de faire des commentaires où Benoît tient souvent le rôle peu enviable de « second choix ». Ça n'a pas l'air de le déranger. En quelques mois, il a changé. Il a pris de l'assurance. Et parfois même, il a l'air heureux. Au premier jour du printemps, Bérangère et Vincent déposent leur liste de mariage. Lui trouve qu'ils ont déjà tout le nécessaire. Il voudrait faire de beaux voyages, connaître ces villes dont il suffit de prononcer le nom pour se sentir dans un autre monde, Palmyre, Jakarta, Shanghai, Los Angeles. Partir avec sa femme vers ces endroits rêvés. Il y pense depuis longtemps. Aujourd'hui, il se dit que c'est le moment ou jamais. Bérangère n'est pas d'accord. Il ne se rend pas compte. D'abord, c'est une occasion unique de se faire offrir de l'argenterie, de la belle porcelaine et du linge de maison. Ils sont complètement sous-équipés. Il leur faut un lave-vaisselle, une cuisinière à induction, un robot Kenwood et une machine à expresso. Et puis, il serait temps de remplacer les horribles lampes du salon. Elle dit ça parce qu'il était avec Nathalie lorsqu'il les a choisies. De toute façon, il serait ridicule de ne pas déposer une liste. C'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un monceau de cendriers, de vases en cristal, de plateaux hideux et de pots en étain vieillis. Vincent est obligé de se rendre à l'évidence. Ils doivent déposer une liste de mariage dans un grand magasin. Bérangère peste, parce qu'en province, on ne trouve rien. Un service qu'ils vont garder toute leur vie, ça ne se choisit pas à la légère. Idem pour l'argenterie. C'est quelque chose que l'on transmet à ses enfants. Il faut bien penser à ça avant de se décider pour un modèle. Quelque chose qu'on transmet à ses enfants. Vincent a beaucoup de mal à s'imaginer léguer leur petite cuillère en argent aux enfants qui n'ont pas encore conçu. Bérangère a demandé à sa belle-sœur Hélène de lui envoyer tous les catalogues et brochures qu'elle pouvait trouver dans les grands magasins parisiens. Il y en a partout dans l'appartement. Depuis des semaines, elle ne parle quasiment que de cela. Vincent n'ignore plus rien des grands noms de spécialistes des arts de la table. Christophe, Bernardo, Baccarat, Puyforca, Hermès, Saint-Louis, Saint-Hilaire. C'est la litanie des noms sacrés que vénère désormais Bérangère. Les conversations passionnées des mois précédents ont fait place à d'angoissants débats. Choisiront-ils le modèle Amazon ou Topaz, Cornouailles ou Marbella? Tant que ces décisions n'auront pas été prises, il ne connaîtra pas de répit. Comment lui dire qu'il s'en tape, qu'il s'en balance, qu'il s'en bat les flancs de ses petites cuillères et de ses assiettes à fromage?
Je t'embête?
Mais non.
Si, je vois bien que je t'embête. Tu n'écoutes pas ce que je te raconte.
Mais si.
Alors pourquoi tu dis oui, oui, sans arrêt, avec l'air d'être ailleurs?
Est-ce sa faute s'il n'arrive pas à se sentir concerné par cet amoncellement de vaisselle, de linge de maison, d'objets décoratifs? Tout cela est étranger à ses besoins, à ses goûts. Il est tellement lassé de discuter, il s'en fiche tellement au fond qu'il la laisse choisir. Il cède sur tout, en se disant que c'est très bien comme ça. Il dînera jusqu'à la fin de ses jours dans le modèle Versailles, au lieu du Chenonceau, qui avait sa préférence, mais ça ne changera pas la saveur de ce qu'il avalera. Dire que tout cela s'entassera d'ici quelques mois dans leur placard. La mère de Bérangère lui a conseillé de commander les pièces en 24 exemplaires. 24 assiettes creuses, 24 assiettes plates, 24 assiettes à dessert. Il préfère ne pas y penser. Auront-ils un jour l'occasion de recevoir autant de monde à une même table? Lorsqu'il en fait la réflexion à Bérangère, elle le regarde médusée.
« Mais enfin, Vincent, on n'a pas besoin d'être 24 pour utiliser autant d'assiettes. »
« Tu n'as jamais remarqué qu'on change la vaisselle entre les plats, chez les gens comme il faut? Avec 24 assiettes, on évite d'avoir à tout laver entre l'entrée et le plat principal.
Bon sang, mais c'est bien sûr! Comment a-t-il pu ne pas y penser?
Ils se demandent malgré tout quand ils auront la place de recevoir 12 personnes autour de leur petite table de salle à manger. Mais cette fois-ci, ils n'osent pas poser la question. Ils croyaient que ça s'arrêterait une fois qu'ils auraient choisi les modèles et déposé leur liste. Mais non. À présent, tous les soirs, elle va voir sur Internet où en sont les dons. Elle tape le code d'accès avec délectation, puis, très concentrée, les yeux rivés à l'écran, elle fait défiler la liste. Sa bouche est agitée de petits rictus de plaisir ou de dépit, selon le montant des sommes versées. Elle mémorise avec précision ce que chacun a donné. Vincent ne doute pas qu'elle s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours. Presque quotidiennement, elle téléphone à sa mère pour lui livrer l'état des comptes. Elle annonce, comme elle le ferait d'un verdict, qui s'est montré exceptionnellement généreux. « Les Carriers nous ont offert la soupière. 460 €. C'est beaucoup pour des connaissances éloignées. Il faut absolument que tu les invites d'ici le mariage. » La plupart du temps, elle fustige la pingrerie des membres de sa famille. Mais il y a des choses qui n'étonnent plus personne, après tout ce qui s'est passé. Et Vincent capte les bribes de rancœurs anciennes. Une histoire d'héritage vieille de plus de 20 ans qui semble avoir fait autant de dégâts que la malédiction des Atrides. De la robe de mariée, il ignorera tout jusqu'au jour du mariage. Il sait seulement que Bérengère a dessiné elle-même le modèle et qu'on a engagé pour l'occasion la couturière au doigt de fée qui a déjà réalisé la robe de Laurence, il y a 5 ans. Un jour, en cherchant une enveloppe dans le secrétaire, il trouve 2 coupures de magazine glissées dans un bloc de papier à lettres. Sur l'une, il reconnaît Grace Kelly, le jour de son mariage avec le prince de Monaco. L'image l'a figée pour l'éternité dans son corset de dentelle, les yeux baissés sur son bouquet de muguet. La légende précise qu'elle joue son plus beau rôle. Il se dit « Tu parles !» Il pense à Grace Kelly dans « Fenêtre sur cour », Grace Kelly dans « La main au collet ». Dire qu'elle aurait dû jouer Marnie. Il ne reconnaît pas l'autre couple. Sur le seuil d'une petite église scintillante de bougies, un jeune homme très beau porte à ses lèvres la main d'une très belle jeune femme en robe fluide et sandales légères. Dans une modeste chapelle de bois blanc de la petite île sauvage de Cumberland, au large de la Géorgie, Caroline Bessett unit son destin à celui du fils du président assassiné. Dans le plus humble des décors, et dans la plus stricte intimité, les membres du clan ont accueilli la jeune épouse. Il reste un long moment à contempler ces bouts de papier que Bérengère, un jour, a découpés et conservés dans un coin pour pouvoir les regarder de temps en temps. La star en robe de princesse, la milliardaire aux pieds nus. À laquelle de ces femmes, mortes depuis longtemps, rêve-t-elle de ressembler le jour de son mariage ? S'est-elle imaginée dans une cathédrale, une longue traîne de dentelle étalée à ses pieds? Songe-t-elle parfois à une île sauvage, à une petite chapelle où ils se marieraient loin du monde? Les photos entre les doigts, il pense quelques instants à ces mariages de magazines, exotiques, somptueux, inaccessibles. Un dernier coup d'œil à Grace Kelly et il remet les coupures bien à plat dans le bloc de papier à lettres. En refermant le secrétaire, il se dit que, peut-être, Bérengère a seulement voulu garder en mémoire le modèle des robes de mariée.